La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche que je vais consacrer aux genêts et autres plantes dites inutiles jadis en Basse Marche. Pour les textes, nous avons utilisé des ouvrages et les auteurs suivants. Monique Guerre, Les Genêts. Louis Peignot, Au pays des bruyères et des étangs. Maurice Robert, Le Genêt dans la tradition populaire limousine. Charles Sylvestre, Un extrait du voyage rustique et de Belle France. Maurice Rollinat, son poème La ronce et le serpent. Florence de Guy, Au pays de la fileuse. Charles-Henri Riboutet, Les souhaits. Annie Schneider, L'ortie. Albert Gourceau, La société rurale en Limousin et Basse Marche. Et enfin Paul Lavergne, Un extrait de Printemps.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Après le sombre hiver et le printemps infâme, les voici refleuris pour nourrir l'âme. Ils éclatent partout comme un feu d'artifice. La lande, ils la ponctuent de leurs joyaux factices. De leurs lourds festons d'or, ils bordent la prairie. Le taillis, ils léguaient de folles broderies. En habits safranés, ils font la haie d'honneur et le long du sentier, salue le promeneur. À l'assaut des talus, ils cachent la pierraille que d'énormes engins chaque saison entaillent. Les rochers de granit avec lesquels ils flirtent semblent émerveillés par ces riches conquêtes. Ils couronnent d'or pur les puits majestueux, mais c'est lorsqu'ils dévalent les flancs de nos collines, luttant avec ardeur contre les résineux, que leur torrent doré qu'un coupe-feu en serre semble braver le monde et dire que la terre peut être prolifique et pourtant limousine. Ajoutons à ce poème de Monique Guerre cet extrait de l'ouvrage « Au pays des bruyères et des étangs » de Louis Peignot. Cette impression de beauté mélancolique que nous emportons vers Touron avec son château riche d'histoire, ce n'est pas la route de tricherie qui va la dissiper. Étroite et sinueuse, elle descend au flanc d'une vaste vallée enserrée de hautes collines couvertes de bois. Ce ne sont que des taillis de chênes, de châtaigniers, de bouleaux. Quelques pins, des houx, des genévriers, des champs de genêts, des pentes de bruyères mêlées d'ajoncs. Aucune terre cultivée. Tout dans cet immense vallon désert incline à la tristesse. Tristesse qui fera place à la joie quand vers la fin de mai nos yeux éblouis découvriront les champs de genêts en fleurs. Ils s'étalent au flanc de la vallée en vaste nappe jaune où bourdonnent les abeilles. Décorateurs peu désirés certes, et qui furent longtemps bannis quand nos campagnes disposaient de bras assez nombreux pour les tenir en respect.
J'aime marcher parmi les genêts d'or qui frémissant couvrent la grande plaine quand le soleil n'y brûle pas encore. De leur senteur parfumée mon haleine.
Pour nos poètes, pour nos romanciers, comme pour les touristes, les genêts, particulièrement lorsqu'ils sont en fleurs, sont une pure merveille. Mais pour nos cultivateurs, ce ne sont que des terres perdues. C'est vrai pour les landes à genêts comme pour les landes à ajoncs ou à bruyères. C'est également vrai pour les joncs qui colonisent les prés humides, les sagnes, mais encore pour la ronce, pour l'ortie, pour la fougère ou pour le gui. Et pourtant, toutes ces plantes, souvent qualifiées d'inutiles, ont joué un rôle essentiel dans la vie de nos ancêtres. Nous allons d'abord nous intéresser au genêt en nous appuyant sur une étude de Maurice Robert, Le genêt dans la tradition populaire limousine.
Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Le genêt à balai, que l'on appelle d'ailleurs balai, tout court en basse marche, est un arbuste, un arbrisseau du genre des sitises, très célèbre pour sa magnifique floraison jaune d'or. Le genêt forme des fruits qui sont des gousses qui se dessèchent à maturité et libèrent les graines. Le genêt à balai colonise les terres primaires, les brandes du Limousin, les terrains plutôt secs et, nous dit Maurice Robert, c'est un arbuste qui réjouit le touriste et désespère le paysan. Les paysans de la basse marche chercheront à faire reculer les zones couvertes de genêt pour récupérer des terres de culture ou de pacage. Pourtant, les usages du genêt furent particulièrement nombreux. Nous reprenons la liste établie par Maurice Robert. On utilise les tiges souples du genêt pour la confection de balais et de balayettes utilisées dans la maison. Pour la confection du grand balai qui sert à sortir les cendres du four à pain et à balayer avec soin la sole sur laquelle sont placées les tourtes. Dès sa sortie du four, ce balai est plongé dans l'eau afin d'arrêter un début de combustion. On le renouvelle avec des tiges vertes à chaque cuisson du pain. On utilise aussi ces tiges pour la couverture des hangars et la construction des cabanes, pour marquer les sillons au moment des semailles, pour ombrer un semis dans le jardin ou des plantes récemment repiquées, pour faire des brosses utilisées pour la toilette des bêtes à cornes. Notons que les petits genêts ronds dont les pousses ont été taillées par la dent des moutons, conviennent bien à cet usage. Mais le genêt est surtout utilisé comme combustible. On en fait des fagots pour allumer le feu, du four à pain, des micro-fagots pour faire la cuisine, faire chauffer le café ou faire cuire les crêpes.
Grandes histoires de la basse marche.
Mais il y a bien d'autres utilisations du genêt. On utilisait le genêt comme nourriture des moutons et des lapins. Écoutons ce que nous en dit Charles Sylvestre dans Le Voyage rustique. Le mois dernier, je fus bien surpris. Gentou passa près de moi, sans crier gare, chargé d'une gerbe de genêts en fleurs. Il portait ce monceau d'or à ses lapins, avec la mine d'un garçon qui a fait fortune. Les ruches en paille avaient souvent un toit de genêt. Dans certaines zones, on utilisait le genêt pour produire un fil que l'on tissait et la fleur de genêt servait en teinturerie. On tirait même de la cellulose de cette plante, mais cette activité fut de courte durée. Notons ces deux utilisations spécifiques du genêt. On fume les jambons au-dessus d'un feu de genêt. Et anciennement, à Saint-Ouen-sur-Gartempe, à l'usine des chaîneries limousines, on mettait du genêt dans les cuves utilisées pour la trempe de l'acier.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans son étude, Maurice Robert cite un dictionnaire de 1768 qui précise l'utilisation médicinale du genêt. En voici quelques extraits. Le genêt est plénique, néphrétique, hépatique, chaud, dessiccatif, apéritif, atténuant et détersif. Il pousse la pierre des reins et purge les humeurs séreuses tant par le vomissement que par les selles et les urines. Son usage est célèbre dans les obstructions du foie, de la rate et du mésentère, dans l'hydropisie, les catarrhes et la goutte. On dit même que la semence de genêt consume les écrouelles. À lire cet article, on s'aperçoit que le genêt est à lui tout seul une vraie pharmacie puisqu'il guérit pratiquement de tout. Dans nos campagnes, on utilisait la fleur du genêt pour guérir les verrues, des gousses vertes séchées qui servaient de purge, avec la partie la plus tendre du genêt, un calmant pour les dents. Les fleurs séchées pour confectionner une tisane censée guérir la jaunisse ou le rhume ou provoquer le sommeil. Parfois, la décoction de fleurs de genêt était utilisée pour le soin des yeux ou pour calmer les maux de ventre. Ajoutons pour terminer que le genêt est aujourd'hui beaucoup utilisé pour stabiliser les bordures de routes et d'autoroutes ou pour planter les anciennes zones urbaines ou industrielles à réhabiliter. Il convient de ne pas confondre le genêt avec l'ajon que l'on appelle pourtant le genêt épineux. C'est un arbrisseau dont le bois est garni d'épines qui permet de réaliser des haies particulièrement défensives et colorées d'or au moment de la floraison au printemps, en avril. En dehors de cette utilisation défensive, les haies d'ajon permettaient aussi l'étendage du linge. La quantité, le foisonnement des épines de l'ajon renvoie la ronce à la presque douceur. Notre voisin creusois de Fresselines, le grand poète Maurice Rollina, a écrit ce poème à propos de la ronce et du serpent. Foisonnante, couvant des venins séculaires dans ces marécageux semis d'herbes et de rocs, les ronces, parfouillis épais comme des blocs, embusquaient sourdement leurs dards triangulaires. Ah, certes, elle guettait si bien l'occasion du mal, si scélérate épiait leur adresse, que l'accrochant éclair de leurs griffes traîtresses fut plus subtil encore que ma précaution. J'enrageais. Quand mon pied heurte un serpent, la bête aurait pu se venger. Elle écarta la tête et s'enfuit d'un train plus rampant. « Allons, que ton humeur à présent se défronce, me dis-je, et j'oubliais pour un si doux serpent la méchanceté de la ronce. »
Petites et grandes histoires de la basse marche.
La ronce commune, ronce des bois, ronce des haies, est un arbrisseau épineux très commun en basse marche qui produit un fruit comestible, la mûre. L'arbrisseau est vivace par ses tiges souterraines produisant chaque année de nouvelles tiges aériennes qui vivent 2 ans, ne fructifiant que la 2e année. Les tiges arquées peuvent atteindre 3 ou 4 mètres de long et leur extrémité rejoint le sol la 2e année et s'enracine par marcottage, émettant ensuite de nouvelles tiges qui colonisent rapidement le terrain. Les fruits de la ronce sont noirs, bleuâtres, à maturité vers septembre. Ils sont consommés crus, seuls ou dans des salades de fruits, ou cuits en tarte, en sirop, en gelée ou en confiture. On en fait aussi une boisson alcoolisée, la crème de mûre. On utilise également l'écorce de ronce pour faire des éclisses pour la vannerie. Maurice Robert nous explique que la ronce noire ou ronce des haies, dont la tige s'élève dans les fourrés à plus de 4 mètres de haut, doit être cueillie le plus au centre possible du fourré, de préférence à l'ombre d'un arbre, car elle s'étire en hauteur, est plus souple et ne présente pas de ramifications, de branches qui provoquent des cassures lors de la préparation de la tige. C'est au cours de l'hiver, après les gelées, que la ronce est coupée et préparée, car elle est plus souple et moins cassante. Dès qu'elle est coupée, la ronce est débarrassée de ses épines à l'aide du couteau dont le dos ne blesse pas l'écorce. Il faut prendre un soin particulier à cette fente qui doit être bien régulière, sinon le lien se romprait par la suite. Chaque moitié est reprise et fendue à nouveau en deux. On procédera ensuite à une espèce de raclage pour débarrasser le brin de sa moelle et donc pour affiner l'éclisse. Pour leur donner encore plus de souplesse, on laissera séjourner ces éclisses dans l'eau. On obtiendra ainsi des brins bien réguliers de 2,50 m à 3 m de longueur que l'on va utiliser en tressage ou comme lien. Nous y reviendrons lors de l'émission que nous consacrerons à la vannerie en basse marche et ce sera en novembre prochain.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Que ne suis-je, la fougère, où sur la fin d'un beau jour se repose ma bergère ? sous la garde de l'amour, que ne suis-je le zéphyr qui rafraîchit ses appas, l'air que sa bouche respire, la fleur qui naît sous ses pas. Que ne suis-je la fougère est un célèbre poème du XVIIIe siècle. Voici ce que Florence de Guy, notre romancière bellachonne, nous dit, elle, de la fougère, dans son ouvrage « Au pays de la fileuse ». Au printemps, rien n'était plus délicat que la couleur tendre des fougères nouvelles, la transparence des premières feuilles dentelées, rajeunissant les vieux arbres tordus, ébranchés, n'ayant que l'écorce parfois. En été, l'ombre de ce grand bois était exquise. Les fougères avaient alors une tige brune et vernie. La fougère, bien que parfois nuisible aux forêts, est très difficile à éradiquer, fut longtemps utilisée comme litière, en particulier dans les poulaillers, où elle est censée servir de répulsif contre les poux, mais aussi comme paillage, sèche ou jaunissante à l'automne. Elle protège du gel les plantes sensibles comme la mâche, la chicorée ou la scarole. Au printemps, on l'utilise pour protéger les fraisiers, où elle évite la pourriture, où elle emprisonne les limaces. On l'utilisait encore pour couvrir les toits en guise de chaume, car elle évitait les fermentations, mais aussi comme combustible. Ses cendres étaient utilisées dans les verreries ou pour les lessives. C'est ainsi que dans Belle France, Charles Sylvestre précise « Avant-guerre, les fougères étaient coupées et brûlées, leurs cendres fines vendues aux lavandières qui les recherchaient pour la blancheur qu'elles donnaient au linge. » On fabriquait également un purin de fougère qui est un insecticide puissant contre les pucerons. Ces rhizomes permettaient de teindre la laine ou le cuir. En période de famine, avec ses racines séchées et pilées, puis mêlées avec un peu de son, on fabriquait du pain de fougère. Enfin, la fougère était souvent utilisée comme emballage alimentaire pour loger des fruits, des cerises, des prunes ou des fromages. Voici un extrait de Printemps, le roman de Paul Lavergne, qui nous précise une utilisation particulière de la fougère. « Oui, mon vieux, si tu t'agenouilles devant la fougère, que tu la coupes avec tes dents, que tu la lances par-dessus ton épaule et que tu t'en ailles sans te retourner de l'année, tu n'auras pas le mal de dents. Oui, mon vieux, mon père me l'a dit. Mais il faut que ce soit bien la première. Allez, viens dans le bois, je t'en ferai voir. Tu essaieras, c'est joliment difficile. Là, là, tu la vois celle-là ? » Il désignait une fougère toute seule au milieu du sentier. Elle inclinait sa tige verte terminée par d'étranges petites mains recroquevillées qui résistaient encore à l'appel de la lumière. Avec sa bourre brune, elle ressemblait à une bête. Derrière elle, d'autres fougères, déroulant leurs crosses, écartaient déjà leurs doigts bizarres. Leur parfum semblait épaissir l'air du sous-bois. Nous allons écouter maintenant ce célèbre poème de Charles-Henri Ribouté, mis en musique au XVIIIe siècle par Antoine Albanaise, « Que ne suis-je la fougère ?» Et vous allez reconnaître une mélodie fort connue. L'ortie, mon ami, m'a dit tout ceci. Que je vienne d'Europe ou d'Amérique, brûlante, des bois, gracile ou urticante, que je chatouille à peine ou que je brûle franchement, dans mon essence, je suis presque toujours la même, bénéfique pour la plupart des animaux à sang chaud. Plusieurs, d'ailleurs, aiment me dévorer cru. C'est pour ça qu'assez vite, je me suis pourvu de fines aiguilles gonflées d'histamine, d'acide formique et gallique pour survivre au passage à l'appétit des herbivores les plus subtils. Voici donc l'ortie, et il est bien rare qu'on la traite d'amie comme dans ce texte d'Annie Schneider. L'ortie est une plante commune, herbacée, à feuilles opposées de forme elliptique dentée, qui est connue pour être tout entière recouverte de poils urticants. Les fleurs femelles sont verdâtres et pendantes, les fleurs mâles sont jaunâtres et ont un port horizontal. Les poils de l'ortie contiennent de l'acide formique, de l'histamine, de la sérotonine qui irritent la peau et provoquent des rougeurs. Et oui, on n'aime pas les orties, car qui s'y frotte s'y pique. Et pourtant, les utilisations de l'ortie furent et sont encore nombreuses. Le fameux purin d'ortie obtenu par macération d'ortie hachée dans de l'eau est à la fois un fongicide contre le mildiou, un insecticide contre les pucerons par exemple, et un activateur de croissance des végétaux. Longtemps, les orties furent utilisées en soupe et hachées crues, on les ajoutait à la pâtée des volailles. En Basse-Marche, on leur a attribué de nombreuses vertus médicinales, comme diurétique par exemple, en cataplasme, avec de l'argile pour soulager les rhumatismes, en lotion pour soigner l'acné. Les feuilles séchées permettaient de lutter contre le rhume des foins et la racine séchée, l'inflammation de la prostate. En bain de bouche, on l'utilisait pour soigner les aphtes et les angines. Alors, c'est entendu, nous garderons précieusement nos orties pour les mettre dans nos pharmacies.
Jeanneton prend sa faucille, la rirette, la rirette. Jeanneton prend sa faucille pour aller couper du jonc, pour aller couper du jonc.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Bien sûr, vous connaissez tous cette chanson où l'on nous dit que Jeanneton s'en va couper les joncs. Mais que faire de ces joncs? Là encore, voici une plante qui désespère le paysan, qui indique un terrain humide, une saigne ou une sagne tout juste bonne à faire paquer les porcs. Parfois, c'est même l'indication d'un vrai marécage. Et pourtant, il fut une époque où, comme Jeanneton, on récoltait les joncs, en règle générale en juillet, août, on les fauchait, on les triait et on les bottelait. Ils servaient essentiellement à fabriquer des liens, des cordelettes, que l'on utilisait pour le palissage des végétaux. Parfois, la tige creuse était trempée dans de la graisse pour en faire de petites bougies, des allume-feux ou même des torches lorsqu'on les liait en fagots. Mais l'utilisation la plus commune, c'était la fabrication de jouets pour les bébés et les petits-enfants. La grand-mère, la maman ou quelquefois la grande sœur fabriquaient des hochets en joncs tressés. On les appelait grelots car ils avaient la forme d'une clochette que l'on aurait coiffée d'une calotte sphérique. Avant de les fermer, on y plaçait 5 ou 6 cailloux qui s'entrechoquaient lorsqu'on les secouait, d'où son nom de grelot. C'est ce que nous explique Albert Gourceau dans La Société Rurale en Limousin et Basse-Marche, et il ajoute que l'on utilisait les mêmes joncs pour fabriquer de petits chapeaux, des paniers minuscules, des croix, des petites chaises ou des petits berceaux. On sait aussi que cette activité du tressage des joncs occupait précieusement les enfants de la campagne, particulièrement les bergères et les bergers, lorsqu'ils s'ennuyaient pendant la garde du bétail.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Coupez le gui, coupez le houx, c'est la Noël, fleurissons-nous. Nous dit cette chanson. C'est vrai que le gui est un élément important de notre tradition. En effet, il est d'usage de s'embrasser sous une branche de gui et même de choisir une baie de la gerbe, symbole de prospérité et de longue vie, au moment des fêtes de Noël et du jour de l'an, à minuit précisément. Notons que la gerbe de gui doit être accrochée au plafond ou au-dessus de la porte. Cette tradition chez nous remonte au Moyen-Âge, où l'on cueillait du gui pour l'offrir avec ce souhait au Guil-en-œuf. Au Guil-en-œuf, disait-on en basse marche, qui devint par la suite bonne et heureuse année. On sait aussi que du temps des Gaulois, les druides allaient en forêt pour couper le gui sacré le sixième jour de l'année celtique. Buisson toujours vert, sur un arbre apparemment mort en hiver, il symbolisait la vie perpétuelle. Plante sacrée, les druides lui attribuaient des vertus médicinales et même miraculeuses. Le gui était un talisman qui chassait les mauvais esprits, purifiait les âmes, guérissait les corps, neutralisait le poison, assurait la fécondité des troupeaux, permettait même de voir les fantômes et de les faire parler. Notons que le gui était l'arbuste de la lune que l'on cueillait le plus souvent sur le chêne qui, lui, était l'arbre du soleil. On sait aussi que l'on utilisait les fruits du gui fermentés et cuits pour fabriquer une colle fine et très adhésive qui servait de glu. C'est le glu des oiseleurs que l'on utilisait pour piéger les oiseaux. Mais d'un autre côté, le gui est une plante parasite qui, certes, n'attaque pas les cellules de l'arbre parasité, ne décompose pas le bois, mais il en diminue grandement la qualité. En effet, sa présence affaiblit l'arbre hôte, il diminue sa croissance en diamètre et en hauteur, il diminue certaines qualités du bois par les traces de ses suçoirs. Chez le pommier, il diminue aussi la production fruitière. Aussi, il est considéré comme un fléau par les arboriculteurs et les producteurs de bois d'œuvre. Il faut donc le détruire. Le moyen de lutte le plus souvent utilisé consiste à couper la touffe à sa base, mais cela ne donne qu'un répit à l'arboriculteur car les cordons corticaux peuvent émettre des bourgeons capables de créer de nouvelles touffes. C'est pourquoi on utilise parfois la destruction chimique. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que j'ai consacrée aux genêts et autres plantes dites inutiles jadis en basse marche. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie des auteurs suivants, Monique Guerre, Louis Peignot, Maurice Robert, Charles Sylvestre, Maurice Rollina, Florence Deguy, Charles-Henri Ribouté, Annie Schneider, Albert Gourceau et Paul Lavergne. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au chanteur Jean Lumière, au groupe Micamac, Maluzerne, la chorale de Saint-Germain-de-Vaux, aux musiciens Massimo Craveri, au compositeur Antoine Albanese, et Michael Praetorius que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.